en séance.
L'Europe est cette année l'un des principaux thèmes de travail de l'Académie des sciences morales et politiques, placé sous la présidence de M. Michel Albert. Tous les lundis à 15h en salle des séances, un académicien ou une personnalité extérieure à l'Académie vient présenter une communication consacrée à ce thème. Et le lundi 3 mai 2004, l'Académie donnait la parole à l'un de ses membres, l'ancien Premier ministre Raymond Barre. Actualité oblige, en marge de l'élargissement officiel de l'Europe, Raymond Barre avait choisi des évoquer De Gaulle, l'Europe et l'adaptation de la France. Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Au cours de la période 1959-1969, a été mis en œuvre le traité de Rome créant la Communauté économique européenne. Cette période a été dominée par la puissante personnalité du général De Gaulle, dont le gouvernement a eu la responsabilité d'adapter la France au marché commun. Ma communication traite d'abord de la politique d'adaptation de la France, qui conduisit à des transformations profondes de son économie et à un progrès économique et social indiscutable. Je me situe sur ce point dans la ligne du thème retenu pour la réunion des cinq académies en 2003, changement et progrès. Je voudrais d'autre part montrer comment la politique européenne de la France entraîna des changements d'ordre institutionnel par rapport au traité et aux conceptions de certains de ses auteurs, exerça une influence sur l'évolution ultérieure de la communauté. Tels sont les objectifs de cette analyse, qui ne peut décrire évidemment dans le détail la période considérée. Le 25 mars 1957, 6 pays européens, France, Allemagne fédérale, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, signent à Rome le traité instituant la Communauté économique européenne et celui créant l'Euratom. De longues et difficiles négociations avaient préparé ces textes, mais leur nécessité était apparue urgente à cause de deux événements internationaux dramatiques. Le 4 novembre 1956, les chars soviétiques entrent à Budapest. Le 5 novembre de la même année, l'URSS envoie à la France et à la Grande-Bretagne un ultimatum leur enjoignant de mettre fin à l'opération militaire menée avec Israël contre la nationalisation du canal de Suez, décidée par le président Nasser. Le président Eisenhower somme le Premier ministre de Grande-Bretagne d'arrêter l'opération. Une relance de l'Europe s'impose. Le 6 novembre, le président Guy Mollet et le chancelier Konrad Adenauer se rencontrent à Paris et décide de surmonter les conflits d'intérêts et de dissiper une certaine méfiance réciproque qui s'était fait jour jusque-là. L'Europe, déclare le chancelier Adenauer, sera notre revanche. Le 22 janvier 1957, la Chambre des députés se prononce à Paris en faveur des traités. L'opposition provenant des communistes et des gaullistes, tandis que Pierre Mendès France prononce de sérieuses mises en garde. L'année 1958 verra se détériorer jour après jour la situation de la France. Opération difficile en Algérie, crise monétaire et financière aiguë, fragilité des gouvernements successifs. En juin 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir. André Malraux, dans ses antimémoires, retrace une conversation qu'il a à ce moment-là avec le général. La question principale est de savoir si les Français veulent refaire la France ou s'ils veulent se coucher. Il s'agit donc de refaire l'État, de stabiliser la monnaie, d'en finir avec le colonialisme. À la veille de la mise en application des traités européens, et notamment du traité créant le marché commun, la question se pose de savoir quelle sera l'attitude du général de Gaulle à l'égard de la construction européenne. Il a en effet manifesté dans les années précédentes son hostilité à la CECA, à la Communauté européenne de défense et aux efforts d'union des pays européens. Rien ne sera cependant changé par le nouveau gouvernement en ce qui concerne les décisions prises concernant le marché commun. Ce n'est pas seulement parce que De Gaulle respecte la signature de la France, mais parce qu'il voit l'utilité du marché commun pour le développement des 6 États de l'Europe et en particulier pour le développement de la France. Dans les Mémoires d'espoir, il écrit qu'il entend s'appliquer à certains points essentiels. Il s'agit de la compétition internationale, parce que c'est le levier qui peut soutenir la marche de nos entreprises, les contraindre à la productivité, les amener à s'assembler, les entraîner à la lutte au dehors. D'où ma résolution, dit-il, de pratiquer le marché commun, qui n'est encore qu'un cadre de papier, d'aller à la suppression des douanes entre les 6, de libérer largement notre commerce mondial. Le général de Gaulle définira en une formule synthétique la politique de rénovation économique qu'il entend mener: expansion, productivité, concurrence, concentration, voilà bien évidemment les règles qui doivent dorénavant s'imposer à l'économie française, traditionnellement circonspecte, conservatrice, protégée et dispersée. À partir de 1959, le gouvernement de la Ve République va mener une politique européenne active en étroite concertation avec l'Allemagne fédérale de Konrad Adenauer. 3 hommes y contribueront avec constance et talent. À Paris, Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, et Olivier Wormser, directeur des Affaires économiques au Quai d'Orsay. À Bruxelles, Robert Marjolin, qui a été nommé en 1958 vice-président français de la Commission de la Communauté économique européenne. Pour réaliser les changements considérables qui s'imposent à l'économie française, si l'on veut remplir le cadre de papier du traité, l'adaptation doit être conduite, selon le général de Gaulle et le nouveau gouvernement, à partir d'une conception d'ensemble et de manière globale. De simples interventions ponctuelles, non coordonnées, ne sauraient suffire. De plus, l'adaptation doit se faire sans retard, car la concurrence européenne et internationale se présentera bientôt à l'économie française. Enfin, la politique d'adaptation doit être conduite dans la durée. La Constitution de la Ve République, qui assure la continuité et la stabilité de l'exécutif, le permet et le garantit. Quels sont les principaux axes de cette politique d'ensemble, immédiate et durable? Il faut d'abord fournir au développement de l'économie une base saine. C'est l'objet des mesures prises à la fin de 1958 sur la base du rapport du comité RUEF, réduction du déficit budgétaire, limitation des emprunts du Trésor pour financer le déficit, dévaluation du franc. La stabilisation de l'économie doit permettre le développement ultérieur du produit national et de l'emploi. Il faut en second lieu abandonner le triptyque caractéristique de l'évolution passée de l'économie française. Inflation pour stimuler la croissance, protection, dévaluation, et lui substituer un nouveau triptyque, maîtrise des prix, libération des échanges, stabilité du taux de change. Il faut ensuite donner au plan de modernisation et d'équipement, qui devient un plan indicatif, la responsabilité d'étudier les tendances lourdes de l'économie, d'identifier les problèmes à moyen terme, de définir les conditions d'un équilibre économique et financier global, en bref, d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie. Il faut aussi stimuler la recherche, favoriser les programmes de développement d'activités nouvelles. Un délégué général à la recherche, assisté d'un haut conseil scientifique, est créé. Il faut aussi mener les actions sectorielles qui tiennent compte de la création du marché commun. Une loi d'orientation agricole définit une politique vigoureuse destinée à moderniser l'agriculture et à lui permettre de tirer profit de la politique agricole commune à laquelle le gouvernement français est attaché parce qu'elle doit compenser l'ouverture du marché français de produits industriels. Il faut certes profiter de la politique agricole commune, mais il ne faut pas que notre agriculture en soit la simple bénéficiaire. Dans le domaine de l'énergie, un plan progressif de réduction de la production charbonnière est engagé. L'industrie nucléaire est développée. Elf Aquitaine est créée pour développer et gérer le pétrole saharien. Dans les secteurs des banques et des assurances, une restructuration est entreprise pour accroître la dimension des unités et la compétitivité du marché financier. Toutes ces actions sont menées avec détermination par les gouvernements de Michel Debré et de Georges Pompidou. Seules des réformes dites structurelles ne seront pas mises en œuvre. Elles avaient été recommandées par un second comité RUEF, mais elles apparaissent devoir susciter trop d'opposition de la part des secteurs concernés. Le rapport RUEF 2 sera donc discrètement écarté, comme il en a toujours été le cas en France pour les réformes structurelles. C'est qu'il y a des résistances qui se manifestent dès 1959, comme on peut s'y attendre, dès que les mentalités et les comportements des acteurs de l'économie sont bousculés, contenus au départ par la volonté de l'opinion de laisser le général de Gaulle résoudre le problème algérien, contenu par l'autorité dont jouit le chef de l'État, elles se manifesteront surtout à la fin du premier septennat et à partir de l'élection présidentielle de 1965. La vigilance du général de Gaulle ne faiblira pas. C'est ainsi qu'en 1963, alors qu'apparaît le risque d'une poussée inflationniste, il demande au gouvernement d'adopter une politique rigoureuse à l'égard de laquelle son Premier ministre et son ministre des Finances sont réservés, car ils ont le souci de maintenir la croissance et l'emploi. Le ballottage de l'élection présidentielle de 1965 est dû à la fois au mécontentement à l'égard d'une politique économique opposée aux facilités et aux conséquences de la politique du général de Gaulle à l'égard de la Commission européenne de Bruxelles, que nous verrons tout à l'heure. Capable d'un effort pour surmonter une crise, les Français se lassent rapidement d'un effort continu que requiert notamment une politique d'adaptation à des changements extérieurs ou intérieurs. En mai-juin 1968, ce sera l'explosion étudiante qui entraînera une grève générale et de fortes revendications salariales susceptibles de compromettre les résultats jusqu'ici acquis, la crise sociale surmontée, la secousse subie par l'économie française entraînera des sorties de capitaux et des remous sur le marché d'échange, une dévaluation du franc est souhaitée dans certains milieux économiques et politiques, le général de Gaulle la refuse et demande au gouvernement de mettre en œuvre des mesures budgétaires rigoureuses qui s'imposaient. Le soir de la non-dévaluation de novembre 1968, le général de Gaulle me confia sa déception. « J'ai voulu, me dit-il, redonner à la France une monnaie. Mais c'est bien difficile. Dans un pays qui traîne un boulet agricole et dont les chefs d'entreprise ne peuvent pas produire des machines à laver aussi bien que leurs concurrents italiens. » En 1969, une page va se tourner. Mais en 10 ans, l'économie française sera rénovée et modernisée. Elle est désormais en mesure d'affronter la concurrence extérieure. Les droits de douane sont abolis dans le marché commun. Une baisse du tarif extérieur commun est engagée. Cette ouverture sur l'extérieur aura été favorable à la croissance de l'économie et à la hausse du niveau de vie. Les déséquilibres de 1958 ont été surmontés. Les appréhensions ont été dissipées, les résistances traditionnelles dans notre société ont été dans une certaine mesure réduites, la politique d'adaptation aura été largement couronnée de succès. Dans le même temps, Le marché commun s'est consolidé. L'union douanière est en place. La politique agricole commune commence à fonctionner. La France est donc en mesure de participer à de nouveaux développements de la communauté économique européenne. Au sommet de La Haye, en décembre 1969, les chefs d'État et de gouvernement décident d'ouvrir les négociations relatives à l'adhésion de la Grande-Bretagne et de trois autres pays européens candidats. Ainsi s'amorce un processus d'élargissement qui conduira la communauté des six à l'Union européenne à 25. Pour remédier aux conséquences fâcheuses pour le marché commun, et notamment pour le marché commun agricole, de l'instabilité des changes, les chefs d'État et de gouvernement décident la création à terme d'une union économique et monétaire. Celle-ci sera réalisée 30 ans après, et l'Union européenne sera alors dotée d'une monnaie, l'euro. Au-delà d'une adaptation économique pour les pays membres, la mise en œuvre du traité de Rome impliquait aussi une adaptation politique au mode de gouvernance de la communauté déterminé par les nouvelles institutions. Si un accord existait entre les pays membres sur les dispositions économiques du traité, il n'y avait pas, en ce qui concerne l'évolution institutionnelle future de la communauté, un accord entre les arrière-pensées. Les inspirateurs du traité, certains États, certains milieux européens, voyaient dans les institutions de Bruxelles la préfiguration d'un système fédéral dans lequel la Commission jouerait progressivement le rôle d'un gouvernement responsable devant un Parlement européen élu au suffrage universel. Le Conseil des ministres devenait dans cette conception une chambre haute. Les États membres conservaient cependant une certaine prudence à l'égard de cette évolution. Le gouvernement français, pour sa part, manifeste rapidement son hostilité à une interprétation supranationale du traité et, à plus long terme, à une organisation fédérale de l'Europe. À son avis, la géographie et l'histoire ne pourraient conduire à la création, au moins rapide, des États-Unis d'Europe. Les nations européennes sont profondément attachées à leur personnalité. Les États responsables devant leur peuple sont seuls habilités à prendre des décisions au sein de la communauté. La Commission ne saurait être considérée comme un gouvernement implicite de la communauté. En revanche, la méthode communautaire n'est pas mise en question. La Commission propose des mesures d'intérêt commun. Le Conseil des ministres les examine et les décide. Le Parlement donne un avis consultatif. Et finalement, la Commission met en œuvre les décisions du Conseil des ministres. L'intergouvernemental prévaut donc sur un fédéralisme tendanciel. Les divergences d'interprétation donnèrent lieu à des conflits entre le gouvernement français, les États membres et la Commission. Deux événements les illustrent. En 1962, l'échec de l'Europe politique. En 1965, la crise de la chaise vide. Les signataires du traité de Rome considéraient tous que la communauté économique n'était qu'un premier pas de la construction européenne et qu'il serait plus tard nécessaire de progresser sur le plan politique. Le général de Gaulle souhaite pour sa part agir vite. Il déclare dès 1960 « Ma politique va à l'institution du concert des États européens, afin qu'en développant entre eux des liens de toutes sortes, grandissent leur solidarité. Rien n'empêche de penser qu'à partir de là, et surtout s'ils sont un jour l'objet d'une même menace, l'évolution puisse aboutir à une confédération. Aussi propose-t-il à ses partenaires qu'ils discutent régulièrement ensemble de défense, de politique étrangère, de culture. Le général, qui était hostile à la participation de la Grande-Bretagne au marché commun, parce qu'elle avait toute chance de provoquer la dilution de ce marché en une zone de libre-échange, le général pensait que sa proposition, indépendante du traité de Rome et des institutions de marché commun, pouvait intéresser la Grande-Bretagne, hostile à toute forme de supranationalité. Considérée avec intérêt par les partenaires de la France, dans un premier temps, cette proposition fut l'objet d'une négociation conduite par M. Christian Fouché, qui aboutit à ce que l'on a appelé le plan Fouché. Les domaines de la défense, de la politique étrangère, de la culture, de la protection des libertés seraient gérés par des institutions communes sur une base intergouvernementale sous l'autorité d'un conseil des chefs d'État et de gouvernement. Un accord s'étant manifesté sur ce plan, une conférence des ministres des Affaires étrangères des six se réunit à Paris en janvier 1962, mais une nouvelle version du projet, amendée par le général, est alors soumise aux ministres. Les ministres belges, M. Spaak, et italiens, le président Seni, s'y opposèrent. Leur attitude hostile s'expliquait fondamentalement par la crainte qu'ils avaient de voir le marché commun et la Commission progressivement affaiblis et isolés, et d'autre part, par le refus de l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté économique. Et puis, quelle serait l'attitude de cette Europe politique à l'égard des États-Unis ? Question que nous retrouverons toujours dans les années ultérieures. Une belle occasion avait été perdue par les six. Plus tard, il y aura dans beaucoup de pays européens une nostalgie discrète du refus du plan Fouché. Les gouvernements s'efforcèrent à petits pas de faire émerger une coopération politique. Il faudra attendre décembre 1974 pour voir la création, de façon informelle, du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Le projet de constitution européenne, aujourd'hui débattu, en fait une institution de l'Union européenne, avec l'accord des membres de l'Union, y compris la Grande-Bretagne. Ce Conseil devra fonctionner sur une base intergouvernementale. Une autre crise va conduire, en 1965, à l'enterrement, si l'on peut dire, de la conception fédérale de la Communauté économique européenne. En mars 1965, le président allemand de la Commission européenne, M. Hallstein, présente à l'Assemblée parlementaire de Strasbourg des propositions concernant le financement de la politique agricole commune pour les cinq années suivantes. Mais il ne s'agit pas seulement de mesures financières et techniques. Le président de la Commission, soutenu par le commissaire néerlandais à l'agriculture, M. Mansholt, greffe sur sa proposition des développements institutionnels qui peuvent modifier le fonctionnement et la nature de la communauté. Réalisation du marché unique, le 1er juillet 1967, plus de 6 ans avant l'échéance prévue par le traité de Rome. Attribution à la communauté de ressources propres, se substituant aux contributions des États membres et directement perçues et gérées par la Commission. Reconnaissance à l'Assemblée de Strasbourg d'une certaine initiative financière, d'un pouvoir d'amendement au budget que la Commission pourrait accepter ou refuser. Enfin, le pouvoir de contrôle semblable à ceux d'un Parlement national. Cette proposition, qui s'inspire d'une interprétation supranationale du traité, entend créer une relation fondamentale entre la Commission et le Parlement européen, se substituant à celle qui existait entre la Commission et le Conseil des ministres. Les institutions européennes prennent le pas sur les États. La Russie, le Benelux, l'Italie, l'Espagne, favorables en principe à la supranationalité, font preuve de réserve, car ils ne veulent pas aller aussi loin. La France, pour sa part, va lancer une offensive contre la Commission, n'ayant pu obtenir la dissociation du règlement financier nécessaire au financement de la politique agricole commune, proposition que la France accepte. D'autres dispositions d'ordre institutionnel que la France rejette, le gouvernement français décide le 1er juillet 1965 de ne plus siéger à Bruxelles et de retirer son représentant permanent auprès de la communauté européenne. Le 9 septembre 1965, le général de Gaulle annonce qu'à compter du 1er janvier 1966, le gouvernement français refusera le passage à la règle de la majorité dans les décisions du Conseil des ministres. Ainsi se trouve contesté, pour la première fois, un article essentiel du traité dont la renégociation est demandée. Aucun partenaire de la France n'est prêt à remettre en cause cette disposition du traité. C'est l'impasse. Les réactions de l'opinion en France, le ballottage de l'élection présidentielle à la fin de 1965, vont conduire le général de Gaulle à assouplir sa position et à accepter de reprendre les négociations avec les partenaires de la France. En janvier 1966, interviendra le compromis de Luxembourg. Le traité de Rome ne sera pas modifié. Le vote à la majorité reste la règle. Mais lorsque des intérêts importants d'un ou de plusieurs partenaires seront en jeu, le Conseil des ministres devra poursuivre les négociations jusqu'à parvenir à une solution acceptée par le pays concerné. Une décision ne peut donc pas être imposée à un pays par un vote majoritaire sur une question que celui-ci juge d'intérêt fondamental. De plus, la Commission ne pourra plus rendre publiques ses propositions avant d'en avoir saisi le Conseil. L'échec du président Hallstein aura pour effet de maintenir définitivement la Commission dans un rôle non gouvernemental. Le compromis de Luxembourg n'a jamais été remis en question après 1965 par aucun État membre de la communauté ou de l'Union européenne. N'en parler jamais, y penser toujours. Il est intéressant de constater qu'à l'égard du projet de constitution européenne actuellement envisagé, les discussions relatives au vote à la majorité qualifiée et les résistances de l'Espagne et de la Pologne sembleraient conduire à un compromis qui rappelle le compromis de Luxembourg, dans le cas où il s'agirait d'une décision relative à un intérêt important d'un État membre, il serait possible de ne pas respecter le système de pondération de majorité qualifiée qui a été retenu dans le projet de traité, mais de revenir au système de pondération retenu par le traité de Nice, plus favorable à l'Espagne et au Portugal. Dans les années suivantes, les progrès de la construction européenne firent reconnaître à la Commission des pouvoirs spécifiques, il faut bien le reconnaître, de caractère quasi fédéral. Fixation des prix agricoles et gestion du FEOGA, du Fonds de financement de l'agriculture, mise en œuvre de la politique commerciale commune et représentation des États membres dans les négociations commerciales internationales. Décision au titre de la politique de concurrence, conduite de la politique d'aide au développement à travers le Fonds européen de développement. Si, au cours de l'évolution de la communauté européenne, puis de l'Union européenne, la Commission ne sera plus considérée comme un futur gouvernement de l'Europe, son rôle de proposition, de médiation, de gestion sera sans cesse renforcé et affermi, et son président sera appelé à participer à côté des chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen. Depuis les discussions enflammées sur la supranationalité et le fédéralisme européen, on a vu ainsi s'établir progressivement un équilibre entre la défense des intérêts nationaux et les nécessités d'une gestion efficace de la communauté ou de l'Union. Les positions théoriques, trop éloignées des réalités européennes, se sont assouplies pour tenir compte des exigences du progrès de l'Union, si la future constitution de l'Union donne, d'une manière générale, la prédominance à l'intergouvernemental qui peut nier qu'au sein de l'Union monétaire, la Banque centrale européenne n'est pas une institution de type fédéral. Mais c'est le Conseil des ministres de l'économie qui gardera la responsabilité de la coordination des politiques économiques et budgétaires. 50 ans après le début du processus de construction de l'Europe, à la communauté des 6 va succéder l'Union des 25. Le temps des adaptations est loin d'être révolu pour les membres de cette Union. La France, comme ses partenaires, se trouve devant 3 défis. D'abord, le défi de l'élargissement. Comment participer et contribuer au fonctionnement d'une union hétérogène par la taille, par le niveau de développement, par les structures des divers États membres. La France, pour sa part, devra faire face aux modifications qui se produiront inéluctablement dans des domaines auxquels elle avait marqué son attachement, la politique agricole commune, le financement de l'Union, le rôle des fonds structurels notamment. D'une manière générale, les États membres devront donner aux institutions de l'Union des moyens de gérer avec efficacité leurs intérêts communs dans la concurrence mondiale. Deuxième défi, le défi de l'Union économique et monétaire. La création de l'euro exige des États qui ont voulu entrer dans la zone des efforts économiques et financiers importants. Il s'agit maintenant de faire fonctionner correctement l'Union monétaire et d'assurer la force de l'euro en pratiquant dans chaque État membre une discipline budgétaire et des adaptations de la politique économique qui soient compatibles avec celle des pays partenaires et avec la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Le défi, en troisième lieu, de la mondialisation, le développement de marchés mondiaux, des produits, des services, des capitaux, intensifie la concurrence extérieure à laquelle doit faire face l'Union, ainsi que chacun de ses membres. L'effort de compétitivité devra s'accroître et se réaliser par les voies de la recherche et de l'innovation, de la formation des hommes, de l'interpénétration des activités de production et des investissements sur les marchés de l'Union et sur les marchés extérieurs. La concurrence ne sera plus désormais entre des entreprises et des nations, mais entre de grands ensembles. À la concurrence Europe-États-Unis viendra s'ajouter la concurrence croissante de la Chine, de l'Inde et demain, après son redressement, de la Russie. Même si les problèmes actuels ont changé de nature et de dimension par rapport à ceux des années 50 et 60, l'évocation du passé peut utilement servir à faire face aux exigences du présent et de l'avenir. Je m'excuse d'avoir été peut-être trop long.
C'était l'ancien Premier ministre et actuel membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Raymond Barre, devant l'Académie en séance publique le lundi 3 mai 2004. Raymond Barre présentait une communication intitulée « De Gaulle, l'Europe et l'adaptation de la France ». Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité du texte de cette intervention sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques. Voici l'adresse www.asmp.fr. Le site vous propose également de découvrir l'ensemble des travaux de l'Académie et des académiciens.
Vous écoutez Canal Académie.